entretenu tout ça.
Il y semble, tu vois, il y a quand même du travail qui est fait jusqu'au fond des vallées encore. Ça m'impressionne, ça.
C'est la mairie, certes, les fêtes.
Non, c'est les gens qui habitent encore à Rioussec, là.
Ah, c'est les gens de Rioussec qui font ça.
Les enfants de ceux qui étaient là à l'époque.
Mais c'est habité, il y a beaucoup de personnes.
Maintenant, ils sont à la retraite et sont revenus là. Ouais. Ah, et ils continuent à entretenir. Ah, moi, je suis impressionnée par ça. En fait. Tout le travail de l'homme qui va jusqu'au bout de la vallée encore. Il y a quand même une conservation ici. Le monde m'impressionne.
Oh, je suis perdue un peu. Parce que...
pas, hein.
Et c'était pas comme ça, hein.
Si, mais je pense que c'est notre mémoire qui...
Parce que quand même, là, s'il y avait une casserole qui tombait, elle aurait été arrêtée avant. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça.
Et voilà. Non, en fait, on risquait rien, tu sais.
Est-ce qu'il y avait tout ça?
Non,
c'était pas construit.
Non, il y avait... ça, là, ça n'y était pas. On voyait que les ardoises sont plus récentes. Donc ça, c'était un grand vide, comme ça. Il y avait celle-ci qui était habitée. Et ce qu'il y a de fou dans le souvenir, parce que je n'ai pas l'impression que c'était il y a 100 ans, c'est que les gens vivaient ici, vraiment. C'est-à-dire qu'en bas, là, il y avait un vieux monsieur qui vivait avec son âne, vraiment. Et il habitait là tout le temps. Et au-dessus, là, il y avait un couple qui habitait avec leurs deux filles, qui ensuite ont eu des enfants. Et ils vivaient là, ils étaient bergers. Et il amenait ses moutons là-haut, et dans les estives. Et nous, on le suivait comme ça, en courant. C'est-à-dire que nous, on était en montagne. L'idée de faire de la montagne ne nous effleurait pas. On n'a jamais, moi, l'idée de mettre des chaussures de montagne. Enfin, on était de fait en montagne avec eux. Ce sont deux mondes, en fait, parallèles, ça. Hein, ceux de la montagne sportive et ceux de l'habitat ici. Et ça, c'était fou, hein.
C'était pas il y a 100 ans, mais c'était il y a combien de temps, du coup ?
Ils ont acheté en 77, je pense, j'avais 5 ans. À peu près, ça doit être ça. Hein. Ouais, je devais avoir 5 ans, on va dire 77, pour revendre 10-15 ans plus tard. Voilà.
Et
donc ça s'est passé.
Il y avait juste cette grange, elle n'y était pas.
Laquelle ?
Là, elle n'y était pas, tout ça. Moi, je vous assure, il y avait. On venait par un champ, parce qu'il n'y avait pas la route. On venait par un champ, et il y avait des arbres, et puis vous voyez la vallée. C'est là que ça m'étonnait, je me disais. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés acheter ça avec deux enfants, parce qu'elles étaient gamines.
Oui, on était agiles.
Et puis, vous voyez, c'est tellement grandiose là que... Mais enfin, il faut dire quand même que lorsqu'ils l'ont acheté, c'était presque une ruine. Hein, et que mon frère avait fait un travail, un petit chalet. C'est vrai ou pas?
Mais c'est pour ça qu'il avait acquis le respect, je crois, des gens d'ici.
Ah, d'accord.
C'est ça l'idée, c'est qu'on n'était pas d'ici. Mais juste sur ça, sur ce travail-là qu'il a fait, il a fait ça en plus avec les conseils pratiques des bergers d'ici. C'est-à-dire qu'il a remonté le toit en ardoise, ardoise par ardoise, et il a respecté vraiment l'habitat d'ici. Je crois que c'est pour ça qu'après il y a eu cette acceptation aussi.
Allez,
tu vas passer devant toi.
Oui, allez, je passe devant.
On arrive, regarde, il y a juste cette petite côte à monter.
Quelle est la balade que vous préférez en Couseran, avec le club de marche, avec Lulu notamment?
Avec Lulu. Lulu, vous savez, c'est là. C'est une personne, elle était intuitrice. Elle était intuitrice. Maintenant, on est tous au même niveau. Hein. Dans notre club, nous avons des professeurs, des ingénieurs, des si, mais on est tous au même niveau. Il faut tous grimper, marcher, s'ouvrir. Mais Lulu, elle était institutrice dans la région parisienne, mais ses parents étaient de Bonnac. Et quand elle venait en vacances, hop, les enfants chez les grands-parents et elle, la montagne.
Pardon? Je vais trop vite.
Si te tienes, sigue mucho. Subir.
Ah. Jusqu'aux granges.
À la grange.
Ça te va?
Ça va. Poco.
Poco a poco, vamos tranquilo.
Vous savez que jeudi, nous avons fait 8 km. 8 km. Alors, le président m'a dit, nous allons faire ça. En deux temps, une première fois comme ça. Après, on fait une boucle, on passera pas trop loin des voitures, mais il restera 3 km à faire. Alors, on s'est regardé avec mon ami, parce qu'on a un certain âge. Hein. Alors on s'est regardé avec mon ami et elle me dit, Pépita, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je lui dis, on va continuer, on ne va pas les laisser partir. Et nous sommes partis. Et après, on s'arrête dans un pré pour faire le 4 heures. Alors, comme notre président s'appelle Pierre, je lui dis, Pierre, tu voulais nous semer. Mais tu sais, tu oubliais qu'il y avait le goûter qu'on voulait partager avec vous. Et alors, ce qui fait que, bon, on a continué. Mais enfin, on a fait 8 kilomètres.
Sous la pluie ?
Oui, oui, il pleuvait. Enfin, on est équipés pour ça. Hein. La seule chose qu'on a, c'est que j'ai moi, hein, c'est quand on monte que je souffle. Vous aussi un peu ?
Un peu, oui. Vous manquez. Je ne suis pas entraînée.
Mais oui, mais moi je suis entraînée. Oui. Ça fait 27 ans que je vais à l'entraînement. Toi, tu as toujours marché aussi. 27 ans, tu te rends compte ? 27 ans, mais enfin, je suis sûre. Mais 86 faits. Alors on continue. Mais enfin, on peut.
Continue.
Et alors, pourquoi cet acharnement à marcher chaque semaine ?
Pour combattre la solitude. Vous voyez ? J'ai perdu un fils qui m'a envoyé au fond d'un trou. Et avec mon mari, on a essayé de s'en sortir, mais lui n'a pas pu. Donc il est mort et je me suis retrouvée seule. Et alors il fallait faire quelque chose, hein, où on devient fou. Alors voilà, je me suis inscrite dans un club et ma foi, je suis pas. Je passe une journée entourée de gens qui, comme moi, font des efforts. Personne ne fait de l'effort pour moi. Et puis je suis pas seule. Puis je ne suis pas seule, voilà.
Donc marcher, c'est aussi aller de l'avant, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Ça aide à avoir un but. Il était un temps où j'étais tellement mal que je me disais, il faudrait que tous les jours, tu aies un programme. Un programme. Enfin bon, il faut bien rester un peu à la maison aussi. Quand est-ce qu'on l'a fait ? S'il y avait encore les animaux, au mois de septembre, je crois que c'était le port d'Albis, Biès. Le Prat d'Albi. Magnifique, magnifique. C'était pas très dur, ça. C'est pas très dur. Mais alors là, vous voyez tous ces troupeaux-là, c'était... Oh là là, et puis les montagnes, et puis tout.
On a de la chance d'être par ici, mais après, je me dis qu'il n'y a pas de hasard quand même.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas de hasard qu'on soit ici. Si on y est venu, si on y est venu, qu'on y est resté. Si nos grands-parents sont venus ici, qu'ils sont restés, c'est bien parce qu'ils y ont été accueillis et parce que l'environnement leur a plu. Donc, tu vois, qu'on soit émerveillé devant tout ça, moi, je me dis, il n'y a pas de hasard.
Oui, moi, je suis émerveillée. Oh, pardon, parce que j'aime la nature. Peut-être que d'autres ne l'aiment pas. Tu vois ?
On ne passe pas ici, en fait. On y vient, on s'y réfugie. Il n'y a pas un passage, vraiment, tu vois. Moi, j'ai toujours vu ici comme un refuge, un petit peu. On vient exprès, on s'y retrouve en refuge. On vient là, et comme la vie y est quand même assez protégée, on y reste.
J'avais 6 ans. Elle essayait de sauter le ravin et moi, je passais la frontière.
Déjà, tu marchais.
Vous voyez. Moi, j'avais 6 ans. Mon frère, mon autre frère, avait 3 ans. Et ma sœur, elle avait 6, 7, 8 ans. Vous voyez, nous étions 3 enfants avec 3 adultes, mais c'était maman, l'adulte, une sœur de papa qui avait 14 ans et une sœur de maman qui avait 18 ans. Et ces deux jeunes filles, elles fuyaient les morts qui faisaient des exactions, vous voyez, en Espagne, hein, dans l'armée de Franco. Elle le fuyait. Elle voulait accompagner maman qui était avec 3 enfants pour fuir, voyez. Et on atterrit, alors de Portbou, on atterrit à Cap, dans les Hautes-Alpes. Oui. C'était au mois de février. Nous venions de Castelldefels, qui était à 20 km au sud de Barcelone. Vous voyez, le climat, ça changeait. Eh bien, on mettait les trois enfants au milieu et les dames comme un cercle pour se tenir chaud quand même. C'est pourquoi je trouve que la famille, si on avait été seul, on ne s'en sortait pas.
C'est ça.
Après, donc, papa, qui était, lui, il avait fait, lui, il était passé par le Bertus, Argelès-sur-Mer, les Cannes, Bram, Noé, vous voyez. Et quand il a eu la possibilité de s'adresser à la Croix-Rouge, voyant si on pouvait nous trouver, il a tout fait pour nous faire venir avec lui. C'est pourquoi tu dis, toi, je ne sais pas, mais en fait, c'est un hasard aussi, ça, non?
J'avais assisté à une conférence de Cercas, tu sais. Je t'ai raconté ça à Toulouse, ouais. L'écrivain. Et il disait, la guerre d'Espagne est une histoire au présent.
Ouais.
Ce n'est pas le passé. Tant que des gens vivront...
Mais voilà.
Qui l'ont déjà vécu. Voilà. Tant que seront en vie des gens qui ont vécu ça, ouais. Ça veut dire que c'est une histoire au présent. Et il faut la considérer comme ça.
Je trouve intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'en montagne, vous étiez tous pareils, tous égaux.
Ah oui, alors oui.
Pour quelqu'un qui a vécu l'expropriation, pour cette différence...
Et que je n'ai pas les diplômes qu'ils ont quand même, tu vois.
Exactement, et pour cause, parce qu'en fait, tu n'as pas eu les moyens non plus de poursuivre des études.
Oh,
alors qu'en Espagne, il y avait quand même un certain statut, le passage en France de ces populations, il y a eu quand même un changement de niveau social. Et dire qu'en montagne, en fait, vous êtes tous égaux, pour moi, tu vois, des décennies plus tard, ça me marque profondément.
Merci pour tout ça.
Eh bien... Écoutez-moi, c'est quand on me parle, des fois on me dit « Et qu'est-ce que c'est ton accent ?» Mon accent, mais j'ai un accent. C'est l'accent catalan. Voilà. Comme ça, vous savez d'où vient l'accent. Me llamo Pepita Llop. Eh? Mais je suis Madame Dufour, Josette. Parce que j'ai deux... On m'a traduit le prénom. De Pepita, c'est devenu Josette. Voilà. Vous voyez, et alors quand pour étant jeune fille, je suis Pepita Llop, et mariée, je suis Josette Dufour. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut.
Et spontanément, vous dites Pepita ou vous dites Josette?
Oh, Pepita, pas tout le monde, Pepita. Tout le monde. Et j'ai ma fille qui, comment je vous dirais, cette Josette ne lui plaît pas. Mais ce n'est pas de ma faute. Quand je me suis mariée, ils m'ont demandé un extrait d'acte de naissance. Bon, il a fallu le faire venir d'Espagne. Et cet acte de naissance a été traduit par un professeur d'espagnol agrégé pour traduire les choses. Et il a traduit mon prénom. Moi, j'ai toujours été Pepita pour tout le monde. Pour l'administration, je suis Josette. Eh bien, on s'en contente. Voilà.
Ça parle d'une histoire en plus. Ça parle d'une histoire vraiment.
L'histoire de...
Celle d'être entre deux pays.
Ah.
Elle est résumée juste par ton histoire de nom en fait, hein, cette histoire-là.
Alors je mets une... Comment on appelle ça quand on fait ça?
Une accolade.
Une accolade. Tu as vu le livre que je t'ai donné, c'est ça, hein? Tu le verras. Elle ne l'a pas feuilleté. Elle ne l'a pas feuilleté. Moi j'ai mis Pepita Llop dessous, Josette Dufour. Et puis la collade, c'est la même personne.
Mais oui,
aïe, aïe, aïe.
C'est ça.
Et est-ce que tu peux nous faire pareil, nous dire qui tu es?
Donc je suis Christelle Llop.
La nièce de Pepita.
La nièce de Pepita.